Popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. Je sais bien qu'il est très désagréable pour un saltimbanque d'être scotché ad vitam aeternam à une seule étiquette. Croyez-moi, c'est douloureux quand on me rappelle à tout bout de champ que c'est moi l'auteur de X-Or. Mais enfin, c'est comme ça. Ringo Starr sera pour toujours le batteur des Beatles, Keith Richards le guitariste des Stones et Combaluzier l'associé de Charline Roux avec qui il conçut ces ascenseurs qui nous transportent tous. Eh bien, notre invité d'aujourd'hui, quand bien même son existence ne se résume pas à ça, comme le prouve l'excellent livre dont il vient nous parler aujourd'hui, reste à jamais le Christopher Moltisanti de la plus grande série télé de tous les temps, c'est mon avis, et il n'engage que moi, Les Sopranos. Vous me direz, il s'en sort bien, il aurait pu faire La Table Basse de Joséphine Ange Gardien, mais bon, Soprano un jour, Soprano toujours. Ah, Les Sopranos, quelle admirable fresque retraçant l'épopée de cette famille mafieuse dysfonctionnelle, dont une adaptation française est annoncée depuis des années, bien qu'à chaque fois mystérieusement retardée sous le titre de travail Les Balkany. Il y a quelques années, j'ai croisé sur un trottoir parisien James Gandolfini, Tony Soprano, et je suis resté figé comme un con, béat d'admiration, sans pouvoir détacher mes yeux de sa silhouette massive. Me découvrant ainsi, éberlué, il se retourna vers moi pour me dire avec un sourire amusé « Yes, it's me ». Exactement ce que va pouvoir me dire notre invité dans quelques instants.
France Inter. Popopop. Antoine de Paule.
Aujourd'hui dans Popopop, nous ne recevons pas Christopher Moltisanti des Sopranos. Non, nous recevons Michael Imperioli, l'auteur du roman Wildside, qui nous plonge aujourd'hui dans le New York fiévreux des années 70. Bonjour Michael Imperioli.
Hello, good morning.
Hello, and welcome on Popopop.
Welcome in our show. Thank you for having me.
Merci de m'avoir invité.
Ah, vous traduisez, quand je dis welcome on Popopop, vous traduisez quand même, Harold
Ben, je traduis tout ce que vous dites, vous savez, mon pauvre Antoine.
Traduisez ce que vous venez de dire alors. Ok, au menu également de Popopop, un détour par la planète pop de notre chroniqueur Renan Cros pour parler patrimoine pop à l'occasion des journées du patrimoine de ce week-end. À mes côtés, celle qui est plus baryton basse que soprano, Charline Roux. Bonjour Charline.
Bonjour Antoine, ça, bonjour Michael.
Ça c'est baryton basse. Michael Imperioli, pendant 748 émissions, j'ai posé cette même question. Pour vous, c'est quoi la pop culture? Alors pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses étonnantes, stupéfiantes, saugrenues, rigolotes, indéchiffrables. Et parmi mes préférées, il y a celle de Wes Anderson.
I think that that good...
J'ai l'impression que l'art populaire, quand il est de qualité, et surtout dans le cinéma, moi je ne sais pas comment on le sépare, comment on dit qu'il y a une culture qui n'est pas pop et une culture qui soit pop, ça je ne vois pas. J'ai vraiment conscience qu'il y a plein de choses en art qui ne m'intéressent pas, et des choses que je trouve vraiment pas bonnes. Mais je ne fais pas vraiment de frontière entre ce qui est populaire, pop, et une autre culture plus élevée.
Et pour vous, Michael Imperioli, c'est quoi la pop culture?
At the moment in America,
à l'instant,
pop culture
en Amérique,
is Donald Trump,
la pop culture, c'est Donald Trump.
Politics in America,
parce que la politique en Amérique est devenue un cirque surréaliste.
You turn the television on,
on allume la télé,
any time of the day,
et à toute heure du jour ou de la nuit, il est là.
Talking nonsense,
il parle, il dit des conneries.
And it's become,
et c'est devenu un spectacle permanent.
Michael Imperioli, ne bougez surtout pas, on va parler de pop, de culture et de pop culture dans un instant, juste après Arc-en-Ciel, le morceau du duo français Polo and Pop.
Artificiel, rejoins-moi.
arc-en-ciel, morceau de Polo and Pan, extrait de l'album Caravelle. Vous écoutez Pop à Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Nous sommes aujourd'hui avec l'homme qui s'est fait... tiré dans le pied par le mafieux Tommy DeVito, alias Joe Pesci. Qui est-il et surtout comment va son pied? Réponse avec son pop portrait. Ah oui, alors un pop portrait, c'est votre portrait, Michael, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et c'est signé Charline Roux.
Certes, on l'a dit et répété, notre invité est l'inimitable Christopher Moltisanti des Sopranos, qui est déjà en soi un aboutissement, mais pas que... Et loin d'eux, il est aussi le Michael Spider Gianco des Affranchis, ce qui est en soi aussi un aboutissement. Le Ondid de I Shot Andy Warhol, ce qui est pas mal aussi. Un habitué des plateaux de Spike Lee, Jungle Fever, Malcolm X, Clockers, Girl 6 et Summer of Sam, que notre invité a aussi écrit. Sans doute les prémices de l'activité qui l'amène aujourd'hui. Il a également incarné le Nick Falco de New York Police Judiciaire, le détective Louis Fitch de Detroit 187, le Rick Rath de Californication. Et plus insolite, notre invité est aussi le grand gagnant d'un concours de cuisine télévisée spécial célébrité, Chopped, pour ne pas le nommer. Autant de raisons qui me font dire aujourd'hui qu'on va vraiment se régaler en discutant avec l'auteur, Michael Imperioli, venu nous parler de son premier roman, Whiteside.
Grand gagnant d'une émission de cuisine, c'était avec quel plat, Michael Imperioli?
It's a strange cooking contest because
c'était un concours un peu bizarre parce que ils vous donnent une boîte et vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc la pendule commence, se lance, et il y a des ingrédients étranges dans la boîte. Comme un homard, du sucre en forme de sang, du sang sucré, du pop-corn, du maïs. Et moi, j'ai fait de la glace avec du whisky. Donc, je pense que j'ai bourré. Ils ont été bourrés, finalement, les juges, avec ma recette, et c'est comme ça que j'ai gagné.
La glace au whisky de Michael Imperioli, ça, c'est une info exclusive de Pop Pop Pop. Michael Imperioli, vous êtes acteur, écrivain, producteur et scénariste. Mais avant de parler de votre premier roman, où puisez-vous votre inspiration? Intéressons-nous à votre pop liste. Hop. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Michael Imperioli, votre livre culte, c'est Frankenstein, par Marie Shelley, qui date de 1818. Charline, je sais que vous avez longtemps cru que Frankenstein était un lointain cousin d'Albert, mais je sais aussi qu'entre-temps, vous avez fait quelques recherches.
Mais oui, et rien à voir avec la relativité. Il s'agit d'un roman épistolaire et à l'origine publié anonymement, un roman dans lequel un jeune savant suisse, Victor Frankenstein, crée un être vivant assemblé avec des parties de chair morte. Il se murmure que Mickey Rourke s'en serait inspiré, ah non, à moins que ce soit chair.
Michael Imperioli, est-ce que vous auriez l'amabilité de nous en lire un extrait, s'il vous plaît?
It was on a dreary night of November that I beheld the accomplishment of my toils. With an anxiety that almost amounted to agony, I collected the instruments of life around me, that I might infuse a spark of my being into the lifeless thing that lay at my feet. It was already 1 a.m. The rain pattered dismally against the panes, and when my candle was nearly burnt out, by the glimmer of the half-extinguished light, I saw the dull yellow eye of the creature open. It breathed hard and a convulsive motion agitated its limbs.
En gros, ça veut dire ce fut par une lugubre nuit de novembre que je contemplais mon œuvre terminée dans une anxiété proche de l'agonie. Je rassemblais autour de moi les instruments qui devaient me permettre de faire passer l'étincelle de la vie dans la créature inerte étendue à mes pieds. Il était déjà 1 h du matin, une pluie funèbre martelait les vitres et ma bougie était presque consumée lorsqu'à la lueur de cette lumière à demi éteinte, je vis s'ouvrir l'œil jaune et terne de cet être. Sa respiration pénible commença et un mouvement convulsif agita ses membres.
J'ai peur.
Voilà un extrait de Frankenstein, lu par Michael Imperioli. Pourquoi est-ce que vous aimez tant ce livre?
Oh, I just found it to be... In some ways,
pour moi, c'est quelque,
part, future,
c'est quelque chose qui parle de notre avenir.
Avec
l'intelligence artificielle
et
avec la génétique, la manipulation génétique et toutes ces choses qui nous montrent finalement l'avenir. Et ce sera ça. Peut-être qu'on pourra créer la vie ou en tout cas l'étendre dans le temps, peut-être l'améliorer, qui sait. Et ce qui m'impressionne surtout, c'est qu'elle avait 18 ans quand elle a écrit ce roman.
I think a captivating story.
Et c'est une histoire captivante
and never gets old.
Qui jamais ne vieillit.
Passons à votre film culte, Michael. Et ce film, c'est A Woman Under the Influence, une femme sous influence de John Cassavetes. Ça date de 1974. Charline, vous êtes une femme, oui. Vous êtes sous mon influence. Oui. Est-ce le sujet du film ?
Clairement, on n'est pas loin de notre biopic. Hein. Nick travaille sur des chantiers suite à une urgence canalisation. Il prévient sa femme Mabel qu'il ne pourra pas passer la soirée avec elle comme prévu. Mabel se retrouve seule et désemparée. Elle sort et erre dans les bars et tombe sur un inconnu qu'elle ramène à la maison.
Listen, Zep, I am a little upset. That's why I act upset a little bit, I guess, and I look upset, but occasionally I calm down.
You do calm down.
I do have anxieties, though.
Passion totale, Michael, pour l'œuvre de Cassavetes, ce film en particulier.
My favorite filmmaker, John Cassavetes.
C'est mon cinéaste préféré, John Cassavetes.
And I think the greatest actor, male or female, that ever lived is Jenna Rollins.
Et le plus grand acteur, homme ou femme, qui ait jamais vécu, c'est Jenna Rollins.
And the, you know, when you watch this movie,
vous savez, quand vous regardez ce film, vraiment, vous avez l'impression de passer du temps, de partager du temps avec ces gens. C'est comme dans la vie, plutôt que de le regarder par de l'extérieur. On est dans leur vie.
And every time I watch it,
et chaque fois que je le regarde, et je l'ai vu bien des fois, toujours je découvre quelque chose de nouveau. C'est très particulier, très singulier.
Bien, j'ai un livre, j'ai un film, passons aux séries, plutôt aux chansons. Avant, votre chanson culte, c'est celle-ci. Cortez the Killer de Neil Young, c'est extrait de l'album Zuma, sorti en 75. Vous aviez 10 ans à la sortie de ce morceau, 9 ans, vous vous en rappelez ?
Non,
je n'ai pas découvert cette chanson avant 20 ans, en tout cas bien plus tard. L'image, les images qu'elle dégage, c'est quelque chose qui me hante. Son solo de guitare, c'est quelque chose que j'adore. C'est quelque chose de très expressif. Il semble qu'il ait écrit au moins les paroles de cette chanson quand il était lycéen, adolescent. Je crois qu'il a écrit la musique plus tard, mais les paroles datent de cet âge-là, donc très jeune.
Dites-moi, Marie Shelley qui écrit Frankenstein.
Amazing, right?
Oui, c'est dingue. Neil Young qui écrit cette chanson, enfin les paroles à 16 ans. Le héros de votre livre qui a 16 ans à son tour. Il y a beaucoup de choses qui se recoupent. On va y revenir dans un instant. Terminons d'abord cette pop liste avec la série et votre série culte, c'est bien évidemment The Sopranos de David Chase. Alors Charline, vous qui aimez les mafieux, les psys, la cuisine italienne et les femmes de caractère, j'imagine que vous avez trouvé là votre bonheur.
Vous ne vous trompez pas Antoine, c'est tout à fait mon 50 nuances de gré à moi, mon mummy porn hein, effectivement. 6 saisons à suivre, Tony Soprano & Co, mafioso qui a du mal à concilier vie perso et vie pro et dans laquelle Michael, vous êtes le protégé tout feu tout flamme du patron, enfin du parrain.
What's wrong?
You know, I've always been loyal to you.
What are you trying to tell me, Christopher?
Oh, fuck. Adriana.
What about her?
Feds.
Jesus fucking Christ. How long? How fucking long?
A year, I don't know.
When'd you find out?
She just told me last night.
Quelle idée aussi d'épouser une femme flic, hein. C'est...
Yeah.
Oui, c'est vrai.
Yeah, it is crazy.
C'est complètement fou.
Bad choice.
C'est un mauvais choix.
C'est votre 50 nuances degrés à vous.
You know, it was to be able to play a character over such a long
period.
D'avoir
la possibilité de jouer un personnage
sur
une longue période, moi, j'avais jamais fait ça auparavant. Pour nous, c'était 10 ans du premier épisode au dernier. 85 heures de télé. De travailler sur un personnage qui évolue à ce point-là avec le temps, se développe comme ça avec plein de nuances et de subtilités, oui. C'était très particulier.
Alors je résume Frankenstein, A Woman Under the Influence, Cortez the Killer, Les Sopranos, je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture et ça donne ça.
I am a little upset.
Adriana.
What about
it? It was already 1 in the morning. The rain pattered dismally against the pane.
Got myself depends.
That's why I act upset a little bit, I guess, and I look upset.
Jesus fucking Christ.
It breathed hard, and a convulsive motion agitated its limbs.
Ça ne vous résume pas, évidemment, Michael Imperioli, mais ça donne une première silhouette.
C'est la première fois que toutes ces choses-là ont été mises ensemble, combinées. Ça ne m'est jamais arrivé auparavant.
Ce mixeur de pop culture, Hollywood nous l'envie. Hein. Et je l'admets, c'est très impressionnant. Alors, Michael Imperioli, Les Sopranos, c'est le choix de votre pop-list. C'est aussi la BO de ce pop-up-up spécial en votre compagnie. On va écouter Woke Up This Morning. C'est signé Alabama Free. Alabama Free, Woke Up This Morning, c'est le générique mythique de la série qui l'est tout autant, The Sopranos. Et nous sommes aujourd'hui dans Pop 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 en compagnie de Michael Imperioli, un des acteurs de cette série, venu aujourd'hui nous présenter Wild Side, son premier roman. Michael, vous publiez aux éditions Autrement, ce tout premier roman, l'histoire d'un ado de 16 ans, Matthew, dans le New York des années 70, qui lie une amitié un peu improbable avec son voisin d'immeuble, qui n'est autre qu'un certain Lou Reed. Vous précisez cependant que ce n'est ni un livre sur Lou Reed, ni un livre autobiographique. Alors qui est donc ce Matthew ?
Matthew, c'est un garçon qui a grandi dans le Queens, à New York. Et son père et son grand-père sont morts en 6 mois à peu près. Et sa mère hérite d'une somme d'argent. Et de ce quartier populaire dans le Queens, il va se rendre dans Manhattan, un endroit beaucoup plus chic. Et c'est un nouveau monde pour lui qu'il va découvrir. Et dans son immeuble, il y a Lou Reed. On est en 1967. Une période assez folle de la vie de Lou Reed. Il se shootait à l'amphétamine, il était addict. Et à ce moment-là, il habitait dans le Upper East Side. C'était une époque folle pour lui, mais une époque créative. Et donc, il est vrai qu'il a habité là, mais aucun des événements dans mon roman sont exacts.
Mais alors, si vous n'êtes pas Matthew, qui est ce Lou Reed? Parce que même si vous avez croisé le vrai Lou Reed à plusieurs reprises, celui de votre livre et aussi le produit de votre imagination. Comment est-ce que vous l'avez reconstitué un peu façon Mary Shelley avec Frankenstein?
Yeah, a little bit.
Un petit peu, oui.
Knowing him a bit.
Je le connaissais un peu.
You know, seeing a lot of interviews and.
Je l'avais vu dans beaucoup d'interviews.
Knowing his music.
Je connais sa musique et puis j'ai beaucoup lu sur lui. Et j'ai donc assemblé, comme dans votre mixeur, comme vous le faites.
You know, he's functioning in the book almost as
il fonctionne dans ce livre un petit peu comme une sorte de figure paternelle, comme un mentor artistique pour ce jeune garçon
qui a perdu son père.
Right.
Tout à fait.
Exactly.
Exactement.
Michael Imperioli, vous avez rencontré Lou Reed plusieurs fois. La première a été très particulière puisque c'était en 1994. Vous tourniez I Shot Andy Warhol, un film dont la perspective ne réjouissait que très peu Lou Reed, hein, ami avec feu Warhol. À cette occasion, que vous a-t-il dit?
Ça, c'était la première fois, donc effectivement, que je le rencontrais. Et j'étais à un match de basket et je l'ai vu. Il était là, présent. Et c'était un grand héros pour moi. Et je me suis dit, c'est la chance pour rencontrer Lou Reed, puisque je tourne dans ce film. Et je jouais Ondine, qui était un ami de Lou Reed. Mais je savais qu'il n'était pas très content de ce projet, parce que ça parle finalement de cette femme qui a presque tué son ami. Et je lui dis, moi je suis comédien, je ne crois pas qu'il savait qui j'étais. Et je joue Ondine dans le film. Et j'ai dit, il paraît que vous n'aimez pas ce projet. Je crois que c'est méprisable, cette idée de faire un film sur cette personne folle et dingue. Et quand je lui ai dit que je jouais Ondine, il m'a dit, bonne chance. Il m'a répondu, et puis il est parti. Il m'a regardé de nouveau, il est revenu, et il m'a dit, travaille bien, fais ton boulot, et rappelle-toi une chose, c'est que Ondine, c'est quelqu'un de drôle. Et donc, dans ce petit échange, j'ai vu à la fois le côté un peu vicieux, un peu difficile qu'il avait, et aussi son côté aimable et gentil.
Vous l'avez beaucoup revu après?
Où il savait qui j'étais, c'était après la diffusion des Sopranos. Je suis allé le voir en concert. Et son attaché de presse m'avait invité. J'avais demandé à mon manager de trouver des places pour ce concert. Et donc, son attaché de presse vient me voir après le concert et il me dit « Lou veut vous rencontrer ». Et moi, je ne savais pas qui savait que j'étais là. Et que j'étais comédien, etc. Bref. Et il m'a dit qu'il était un grand fan des Sopranos. Et je ne savais pas ça à l'époque, mais après sa mort, sa femme m'a dit, qu'il aimait bien faire l'imitation de Christopher Moltisanti. Et je ne l'ai jamais vu moi-même, mais il paraît qu'il imitait mon personnage.
On l'imagine. Vous en faites, comme vous le disiez il y a quelques instants, une figure quasi paternelle pour le personnage de Matthew, qui a donc perdu son père et qui se trouve en plein dans une phase riche en démons et en agitation. Est-ce que c'est cette période précise de Lou Reed en 76 qui vous intrigue et qui vous inspire?
Il y a plusieurs périodes de sa vie qui musicalement m'intéressent. Mais je trouve que à cette période-là, quand il a commencé à écrire Street Hassle, qui est une de ses plus grandes chansons.
But I always found it strange that because Lou Reed
j'ai toujours trouvé
lived
étrange
downtown New York, mm-hmm. Greenwich Village,
parce qu'il habitait à Greenwich Village, dans le Lower East Side, dans ces quartiers-là.
But knowing that he lived in the Upper East Side,
et de savoir qu'il a été dans l'Upper East Side, qui était un endroit plus bourgeois,
for days and there was nothing in the apartment pretty much.
Et qu'il n'y avait pas grand-chose dans son appartement et qu'il restait debout sans dormir pendant des jours et des jours. Ça m'a intéressé. Quand j'ai commencé à écrire ce roman, je me suis dit que d'avoir cet élément dans l'histoire, ce serait intéressant.
Whiteside, c'est un livre d'apprentissage, c'est un livre de passage à l'âge adulte. Quelles étaient vos références en la matière?
The Catcher in the Rye, definitely. Kind of obviously, if
The Catcher in the Rye, forcément. L'attrape-cœur.
Candide.
Yeah. Et puis Candide.
Candide.
Yeah. One of my favorite
books. Un de mes livres préférés.
Alors, même si on l'a bien compris, Whiteside n'est pas une autobiographie, qu'y a-t-il de vous en Matthew? Parce qu'il ne nous aura pas échappé que vous avez été vous-même un ado new-yorkais dans les années 70.
When I was 17,
moi, quand j'avais 16 ans,
I started spending most of my time in Manhattan.
J'ai commencé à passer aussi mon temps à Manhattan. C'était un peu plus tard que la période que je décris dans le roman, mais moi aussi, j'ai passé beaucoup de temps à Manhattan.
I had a similar experience of just seeing this
et moi aussi,
intense, vibrant, alive city.
J'ai pu vivre cette vie vibrante
as a very young person for the first time,
très jeune de ma vie,
Matthew does as
comme
well,
Matthew, but, et découvrir ça à un âge jeune. Et c'est là que se trouve finalement le point commun entre nous deux.
Michael Imperioli, Matthew a 16 ans, l'âge qu'avait votre fils en 2013, quand Lou Reed a disparu. Alors je sais bien qu'on n'écrit pas pour ses enfants, mais qu'avez-vous cherché à lui transmettre à travers ce livre?
Well, one of the reasons I started
writing. Une raison pour laquelle je me suis mis à écrire.
My son was 16,
c'était que mon fils avait 16 ans et il traversait des soucis et des difficultés d'un adolescent de 16 ans. Et j'avais envie de me plonger dans cet état d'esprit et de me rappeler ce que ça avait été pour moi. J'ai commencé à écrire ce personnage et trois mois après le début, Lou est mort. Et comme je le connaissais bien et aussi que j'étais un grand admirateur, sa mort m'a vraiment touché à plusieurs niveaux. Et je me suis dit que j'allais finalement rassembler ces deux personnages dans mon roman. Et c'est ça qui m'a donné finalement le fuel, l'énergie, l'essence, le combustible pour avancer.
Votre fils l'a lu?
Yes, all my three children read the
book. Oui, mes trois enfants ont lu, oui. Je crois qu'ils l'ont vraiment bien aimé. Je crois que ça leur a parlé. Mon fils, le plus jeune, qui a 17 ans maintenant, il a lu il y a un an quand il avait 16 ans, justement. Et il l'a beaucoup apprécié.
Michael Imperioli, votre premier roman, Whiteside en français, s'intitule en version originale The Perfume Burned His Eyes, en hommage à ceci.
The perfume burned his eyes, holding tightly to her thighs. And something flickered for a minute.
Ce sont des paroles extraites du titre « Roméo et Juliette » et pour le titre de votre roman en français, on va plutôt chercher de ce côté-ci.
She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side.
Take a walk on the wild side. Est-ce que le titre vous plaît aussi ou est-ce que vous y voyez une différence de sens?
Well,
dans le titre, oui.
Publishers in France felt that
l'éditeur en France
the direct translation
a eu le sentiment que la traduction littérale
was not so
du titre original ne serait pas très claire et serait un petit peu
the original title,
flou.
While I was writing it, was Anywhere You Like.
Anywhere You Like, c'était le titre original quand j'ai
dit.
Vous savez, quand il entre dans le restaurant,
says,
et quand on rentre, il dit
like,
asseyez-vous là où vous voulez.
I kind of liked,
et j'aimais bien ça, là où vous
it,
voulez. Mais quand j'ai fini mon roman
book,
et que j'ai vu ce que c'était, vraiment, je pensais que c'était plus tellement le bon titre. Et cette petite phrase, The Perfume Burn His Eyes, que vous avez joué là tout de suite, ça m'avait toujours hanté. Ça avait toujours été quelque chose qui était dans ma tête. Et je me suis dit, ça représente la maturité, l'âge adulte, d'être dangereux et de ne pas être quelqu'un de facile. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'assez romantique là-dedans, et j'aimais ça.
Michael Imperioli, est-ce que vous auriez pu écrire un livre qui n'est pas New York pour toile de fond, parce que la ville elle-même n'est pas loin d'être le personnage central du roman?
Yeah, New York,
ouais, New York c'est,
like another, like a character,
c'est comme un personnage, oui. En lui-même, dans cette histoire, il fallait qu'elle se passe à New York, bien sûr.
The first
Le premier, Summer of Sam, c'est la première chose que j'ai écrite, c'est le scénario pour Spike Lee, et c'est, ça se passait aussi à New York. J'ai l'impression que c'est un monde qui me parle et que je comprends plus qu'un autre. Et peut-être qu'un jour j'écrirai sur Paris, on ne sait pas, si j'y passe assez de temps.
C'est votre premier roman, vous avez écrit beaucoup de scénarii. Avant, quel a été votre déclic pour passer au format roman?
J'étais vraiment frustré par ce que j'écrivais à la télévision parce que j'essayais d'entrer dans la machine hollywoodienne et que mes scénarios soient produits. Et j'en avais marre de parler à des studios, à des chaînes de télé. Et je voulais aller jusqu'au bout de quelque chose que je puisse être satisfait moi-même, d'aller jusqu'au bout. Et puis j'ai un amour pour la littérature véritable.
Lou Reed n'avait pas la réputation d'être ni très expressif, ni même très chaleureux. Est-ce que vous lui auriez fait lire le roman s'il avait encore été de ce monde? Et d'ailleurs, est-ce que vous l'auriez écrit?
S'il était vivant, j'aurais sans doute pas écrit ce roman. Je pense que c'est un peu... J'aurais eu le sentiment que c'était un peu quelque chose d'indiscret par rapport à sa vie privée. Mais je l'ai passé à Laurie Anderson, sa veuve, qui a eu une réaction intéressante. Parce que je crois que c'est dans les années 90 qu'elle a rencontré Lou. Donc les années 70, elle ne le connaissait pas. Et c'était quelqu'un de très différent à lui-même à ce moment-là. Et elle a dit ça. Et elle m'a dit, je ne connaissais pas vraiment ce Lou-là. Et avec ce personnage... finalement, il est dans ce roman un personnage qu'elle ne connaissait pas tant que ça.
En exergue du livre, une citation tirée de L'Amant de Marguerite Duras. Pourquoi elle plutôt que Salinger ou Patti Smith?
Salinger, à qui on vous compare d'ailleurs.
Because you're compared to Salinger.
When I was reading,
mais quand je quand je lisais L'Amant de Marguerite Duras,
after the my manuscript was finished.
Et c'était après que j'ai terminé mon manuscrit. Et je suis tombé sur ce passage que, effectivement, dont j'ai mis une phrase en exergue. Et ça exprime tellement clairement mes sentiments sur ce bouquin. Je voulais une citation, peut-être une chanson, peut-être un roman, quelque chose. Et je savais pas tellement quoi prendre. Je me disais peut-être que j'allais prendre la chanson Romeo and Juliet. Mais quand je suis tombé sur ce passage de Duras, j'ai trouvé qu'il a tellement, c'était vraiment, vraiment quelques mots l'expression de ce que je voulais faire. C'était vraiment ça. C'est un roman que j'admire énormément.
Le dernier chapitre de votre livre fait un bond dans le temps. Ça se passe en Californie en 2013, quand Matthew apprend la mort de Lou Reed à la radio. Il se met à pleurer et il pleure sur l'adolescent qu'il était et qui est devenu un homme. Est-ce que vous avez eu la même réaction que Matthew?
You know, a few days after
vous savez,
he died,
quelques jours après sa mort,
I was driving,
j'étais au volant.
They played Pale Blue Eyes.
Et la radio a passé Pale Blue Eyes.
On the radio. And it really hit me.
Et là, ça m'a...
Just the loss.
Ça m'a vraiment...
That song is so beautiful.
Ça m'a écroulé. Je l'entendais pour la première fois après sa mort et j'étais dévasté. C'était une grande émotion pour moi. Et vraiment, j'ai compris quelle influence il avait eu sur le monde, mais même personnellement, quelle influence il avait eu sur moi.
Michael Imperioli, ça s'appelle Wild Side, c'est publié chez Autrement, vous ne bougez pas, on va continuer à parler avec Renan Crowe dans quelques instants. Vous écrivez, vous jouez, vous produisez, vous savez à peu près tout faire, mais est-ce que vous savez faire ça?
Non.
I'll
try.
Je vais essayer.
Pas mal, not as good as you.
Non, pas aussi bien que vous.
Bonne tentative. Bon, de toute façon, c'est pour lancer les pop news.
Oui, il est encore question de New York. Bienvenue à Hell's Kitchen. Enfin, bienvenue, bof. Hein. On a connu plus chaleureux que ce quartier corrompu par la criminalité. Et c'est le petit coin de paradis de Daredevil, Matt Murdock au civil, super-héros la nuit, avocat le jour, qui revient pour une saison 3 et m'est avis qu'on va pas trop rigoler pour l'instant. Il est à confesse.
I once believed that justice could be found in a court of law. And in the light of day. But I was fooling myself. Darkness only responds to darkness. And the truth is, I'd rather die as the devil than live as Matt Murdock.
Non, c'est vrai, la justice, c'est surfait. Daredevil, c'est bientôt sur Netflix.
À Lana Del Rey, bientôt de retour. C'est en tout cas ce que l'exagérément langoureuse chanteuse semble annoncer sur son compte Instagram, où elle a posté ceci.
You took my sadness out of context at the Mariner's apartment complex. I ain't no candle in the wind.
Le titre de l'œuvre, Mariner's Apartment Complex, l'album quant à lui ne devrait plus tarder.
Après avoir consacré un ouvrage au New York pop de ciné et de séries, l'équipe de Fan Trippers s'attaque à Paris avec son guide des milieux cultes de films, séries, musique, BD et romans. À nous donc le pont d'Inception, le Montmartre d'Amélie Poulain, mais aussi les lieux secrets du Da Vinci Code, l'appartement de Jason Bourne, avenue Kléber, le siège de la DGSE du Bureau des Légendes, le Paris de Sense8 ou encore les lieux mythiques de la capitale vus par les chansons de Gainsbourg, Biolay, Souchon, Nougaro, Depréto, Necfeu ou encore Dao, tous recensés par le guide des milieux cultes de Paris aux édition Fan Trippers, et c'est pour vous, Michael Imperioli.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Caunes.
Oui, c'est moi. Moi aussi, j'ai une voix grave.
Merci, Charlie. Avant d'accueillir Renan Crot, qui a la lourde tâche de rendre pop les journées du patrimoine, bonne chance, mon ami. Écoutons un morceau qui va plaire à notre invité, Perfect Day de Lou Reed.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good.
Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep.
Lou Reed. Stupid Perfect Day. C'est un morceau de 72 extrait de l'album Transformer. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes toujours en compagnie de Michael Imperioli et vient de nous rejoindre le Stéphane Bern de la pop culture avec ses mocas à glands et son costume bleu roi trois pièces pour nous parler des journées du patrimoine. Allez-y Stéphane.
Bonjour, je ne sais pas faire Stéphane Bern, je ne vais pas m'humilier pour ma deuxième émission de la saison. Bonjour Antoine, bonjour Charline, bonjour Michael. Puisque vous recevez un monument de ma pop culture, alias Michael Imperioli, je me suis dit qu'on allait parler patrimoine, monument, évidemment, avec cette musique insupportable derrière, puisque demain, et ce sont les journées du patrimoine. Alors, les journées du patrimoine, on a l'habitude, c'est plutôt un vieil abbaye visité avec le musée de la ferronnerie, évidemment, avec vos parents, hein, qui vous emmènent comme ça. En fait, il y a des trucs un peu pop à faire, notamment par exemple, ça c'est un petit promo maison, on peut visiter la maison de la radio, vous le saviez ça.
Est-ce qu'on peut visiter la maison de Jean-Sébastien Bach? La musique que nous écoutons, cette musique insupportable.
Je ne sais pas. On peut vous visiter, Antoine, pour les
évidemment
les
qu'on peut
vous
visiter. Oui,
c'est un monument.
Oui, on peut visiter Bacard, bien sûr.
Très bien. Et ben moi, j'ai envie de vous proposer en fait une version pop en fait du patrimonial, puisqu'en ce moment, on se rend bien compte en fait que le patrimoine peut être pop. La preuve, puisque notre ami Stéphane Bern a lancé un loto pour sauver le patrimoine, qui était une phrase que je ne pensais jamais dire dans ma vie. Hein, Stéphane Bern, loto, c'est des trucs un peu improbables. Mais on se rend bien compte aussi avec quand Beyoncé débarque dans le Louvre avec son fameux clip Ape Shit, et ben tout d'un coup, le Louvre gagne de plus en plus de visiteurs.
Comment s'appelle le clip?
Ape Shit.
Hep shit. D'accord.
Mon accent est merveilleux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le patrimoine aujourd'hui, nos monuments, tout ce qu'on connaît depuis des années, bah en fait la pop culture peut s'insérer dedans. Mm-hmm. Et la preuve, en ce moment, la grande mode, et vous aurez ça pas mal pendant les journées du patrimoine ce week-end, c'est les escape games. Vous savez ce que c'est qu'un escape game, Antoine?
Oui, bien sûr, c'est des jeux dont il faut s'échapper.
Exactement. Mm-hmm. C'est-à-dire, en gros, on vous enferme, c'est des jeux de piste, des enfermes dans une pièce, il faut trouver des indices. Eh bien, par exemple, on va avoir ça avec la RATP. La RATP lance ce week-end un escape game du métro. Charline, ça vous fait ricaner?
Est arrivé le métro à l'heure? Ouais.
Bah, c'est à peu près ça. Et non, c'est moi pour l'avoir fait l'année dernière, c'est très chouette, c'est une sorte de jeu de piste à l'intérieur des vieux métros et c'est très agréable, c'est très amusant et toute la famille peut s'amuser. Et c'est ça en fait la pop culture, c'est l'intergénérationnel. La preuve, le Louvre va lancer bientôt son prochain escape game à elle aussi, ça s'appelle Exodus, ça commencera en octobre et la conciergerie va lancer une murder party, c'est quand même fou ça.
Avec Marie-Antoinette?
Bah non, elle est décédée Antoine.
Ah, c'est après Marie-Antoinette alors.
C'est après Marie-Antoinette, c'est murder party. Donc ça veut dire en gros quoi que les monuments peuvent devenir pop.
Mais moi c'est un cluedo, murder party.
Exactement, c'est un cluedo. Mais moi j'ai la solution pour votre week-end du patrimoine. C'est une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre, vous allez me dire, mais ce n'est pas un patrimoine, Renan.
Non,
vous le faites ça très loin. Eh bien si, c'est grâce à un collectif formidable qui s'appelle le collectif 49701 et ils ont réinterprété quoi? Les Trois Mousquetaires. Ça vous parle, Michael Imperioli, Les Trois Mousquetaires?
I do. They were very famous.
Oui,
c'était très célèbre
en Amérique. Et puis,
candy bar,
il existait une barre chocolatée très très connue qui s'appelait Les Trois Mousquetaires.
That was very famous too.
Et ça aussi c'était très
connu. Ça c'est pas, les Trois Mousquetaires deviennent une barre chocolatée. En fait, Les Trois Mousquetaires, donc le roman d'Alexandre Dumas, est adapté par ce collectif de théâtre en série théâtrale. C'est quoi une série théâtrale? C'est qu'en gros ils ont pris le roman d'Alexandre Dumas, qui était déjà un feuilleton, et ils l'ont découpé pour en faire des saisons, saison 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui sont jouées en plein air dans des lieux, des monuments, des lieux. Moi, j'ai vu, par exemple, leur spectacle dans le château de Vincennes, par exemple.
Bien.
Là, ce week-end, ils jouent à Lille, dans les lieux patrimoniaux de Lille, notamment la gare Saint-Sauveur. Et ce qui est formidable, c'est mis en scène par Clara Edouin et Jade Herbulot, pardon. Et c'est vraiment formidable, c'est que c'est mis en scène de manière pop. C'est-à-dire que Les Trois Mousquetaires, à la fois le respect du texte, et en même temps, eh ben, les soldats du cardinal, conduisent une estafette de police. Tout d'un coup, le roi Louis XIII vous jette de la brioche à la tête. Enfin, voilà. C'est vraiment improbable, c'est très, très drôle. Surtout, moi, ce que je trouve assez formidable avec leur spectacle, c'est qu'ils ont gardé les cliffhangers de la série télévisée. C'est que chaque saison est découpée en épisodes qu'on suit au fur et à mesure en se déplaçant avec eux. Donc Antoine, ça veut dire qu'il va falloir se déplacer. Je sais que vous n'avez pas envie de vous déplacer, mais il faut se déplacer pendant le spectacle.
J'ai un fauteuil en parfait état de marche.
C'est vrai,
oui,
très bien.
Je pourrais le pousse,
pousser.
C'est un spectacle déambulatoire. Vraiment, ce qui est assez formidable avec ce spectacle, c'est qu'on est à la fois dans le texte, on est dans le texte de Dumas, et vraiment, ils respectent le texte à la lettre, très souvent. Et en même temps, ils sont dans l'ironie, le décalage. Il y a notamment à l'intérieur du spectacle une séquence très drôle, un masque et la plume, tout d'un coup, qui intervient au milieu du spectacle pour questionner la structure du roman d'Alexandre Dumas. Est-ce que là, c'est bien écrit, mal écrit, tout ça, c'est vraiment très marrant à regarder. Et puis, vraiment, c'est assez génial de voir notamment tous ces jeunes acteurs qui sont tous formidables, et je voudrais vraiment tous les citer parce qu'ils sont merveilleux.
Ils sont combien?
Ils sont 37, non. Guillaume Potier, Antoine Reynard, césarisé pour 120 battements par minute, Maxime Le Gacolanier, Antonin Fadina, Robin Cos, Éléonore Arnaud, Charles Van de Viver et Christina Chaumont. Et c'est mis en scène et joué également par Clara Edouin et Jade Herbulot. Ils jouent jouent tous, ils jouent au moins une trentaine de rôles, et c'est vraiment génial, et notamment de voir Milady, et ça c'est vraiment génial, les saisons 4, 5, 6, de découvrir que c'est un grand roman féministe, parce que le personnage de Milady...
On n'en a jamais douté.
Eh ben c'est un grand roman féministe, et vous le saviez, Michael Imperioli, c'était un grand roman féministe, Les Trois Mousquetaires.
The Three Musketeers is féministe.
Yeah. Féministe, Les Trois Mousquetaires. Non, je me rendais pas compte de ça.
Et ben voilà, c'est
ça lui est pas sauté aux yeux. Non, le personnage de Milady, il est. Peut-être un concert pour Michael Imperioli pour son week-end.
Et ben d'aller voir donc Les Trois Mousquetaires à Lille, et il joue aussi également à Saint-Denis les saisons 1, 2, 3, le 28 et le 29 septembre. C'est un manquable, vous pouvez y emmener toute la famille, c'est ça qui est génial, c'est que vous emmenez vos ados qui vont faire la gueule d'aller au théâtre, et à la fin ils vont trouver ça génial, vous pouvez emmener vos amis, vos parents, tout ça, c'est vraiment, c'est plus qu'un conseil, c'est un ordre, allez découvrir Les Trois Mousquetaires du collectif 49-701, vous allez adorer ça, c'est pop, c'est patrimonial, et c'est la France aux mille fromages.
Merci Renan, et bravo au passage pour votre livre Une vie de chien, les compagnons fidèles des grands de ce monde.
Non, c'est pas moi.
C'est un livre absolument magnifique.
Non, c'est
bref,
pas moi. C'est
l'heure pour moi d'aller visiter un autre lieu symbolique de notre patrimoine, c'est ma cave. Allez, j'y vais. Mais qu'est-ce que c'est que ce 33 tonnes là? Qu'est-ce qu'il fait dans ma cave lui? Mais comment il est entré là?
Oh, monsieur le chauffeur!
Oh, ta gueule! Ta mère elle suce des pingouins!
Ah ouais, d'accord, je comprends, c'est la livraison du magnéto Le Grand N'importe Quoi d'Alexandre Béret, c'est ça? Mais attendez, faites attention quand même, hein, je suis juste derrière vous, là. Oh! Oh! Mais qu'est-ce qu'il fait, ce con-là? Mais non! Mais pourquoi il lève sa bête? Mais je suis juste en dessous, moi! Oh! Oh! Mais arrêtez, vous allez m'enterrer vivant!
Oui, c'est bon! Conny m'y a reçu! Je vous fais écouter ce que ça donne, et le temps que je me dépêtre, on enchaîne avec un deuxième lorry, d'accord? Sortez vite à vous là, je
Vous êtes certain de vouloir épouser une chaise?
Évidemment, oui. Vous dites ça parce qu'elle est en bois. C'est ça, hein? Allez, viens, chérie. On s'en va.
N'importe quoi, n'importe quoi.
J'ai une paire de bottes toutes neuves. Et quand je marche avec...
N'importe quoi, n'importe quoi.
Monseigneur, attention! On voit votre bite!
Ping-pong, circulate!
N'importe quoi, n'importe quoi.
Monsieur Ramirez, combien de fois je vous ai dit de pas écouter du métal quand vous posez le carrelage? Non, mais regardez-moi ce bordel!
Over. France Inter. Pop, pop, pop. Antoine Decaune.
Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with park and cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love. You've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John. Satellite's gone up to the sky. like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of, satellite of love. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of
love. Lou Reed, Satellite of Love, depuis la cave de Pop 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 sur France Inter. Voilà, merci à tous, merci Michael Imperioli. Wildside, c'est publié aux éditions Autrement. C'est un super bon livre. Et merci d'être venu dans Pop Pop Pop.
Thank you. It was a pleasure to be here.
C'était un plaisir.
I enjoyed it.
Merci à l'équipe de Pop Pop Pop, qui se plaint Fontana à la réalisation, à la technique Henri Bérec, à la traduction Harold Manning, Aurélien Décevant, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Hugo Combe et Simon Arestat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Colin Gruel, notre stagiaire. Lundi dans Pop Pop Pop, Guillaume Canet, l'homme qui murmurait comme moi à l'oreille des chevaux dans Japelou, vient nous présenter le film L'amour est une... Faites, bien sûr, mais avant lundi, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yeval à pointe, suivez-nous. Plutôt, comme disent les affranchis qui font des tutos sur YouTube, abonnez-vous à notre podcast.
Mais s'ils étaient du Berry, les affranchis.